La voix de la SENCO.
La voix de la SENCO.
Une
émission de la Conférence épiscopale nationale du Congo sur les ondes mariales.
Voilà, fidèles auditeurs et internautes, bonjour et bienvenue donc à ces autres numéros de votre programme hebdomadaire chaque mercredi, La Voix de la SENCO, et cette voix en ce jour qui sera apportée par la Commission épiscopale pour les ressources naturelles. Dans ces studios, nous sommes avec l'abbé Guy Massietta. Bonjour, monsieur l'abbé.
Bonjour, Maxime.
Voilà, donc avec vous, nous allons interroger la secrétaire de cette Commission épiscopale pour les ressources naturelles. Nous recevons, chers auditeurs et chers internautes, madame Jeanne-Marie, autant pour moi, Abanda, qui est secrétaire donc de la CERN. La CERN, c'est la Commission épiscopale pour les ressources naturelles.
Maxime, c'est une demoiselle. Elle est demoiselle consacrée.
Demoiselle consacrée.
Ouais.
Alors, j'ai utilisé beaucoup madame parce que les Français fédèrent, nous ont dit qu'il faut appeler. Ce n'est plus demoiselle, maintenant c'est madame. Alors, mademoiselle, parce qu'elle est demoiselle consacrée. Oui, oui. Alors, nous la recevons. Bonjour, mademoiselle Jeanne-Marie Abanda. Bonjour.
Bonjour, Maxime. Bonjour, monsieur l'abbé.
Bonjour.
Bienvenue Merci. Chez nous.
Merci de m'accueillir dans cette émission.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, madame ou mademoiselle Jeanne-Marie Abanda, vous êtes secrétaire générale de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles. Et nous voulons savoir depuis quelle année cette commission a été créée. Et vous l'occupez donc depuis quelle année? C'est aussi la deuxième question déjà d'entrée en jeu. Et comment est structurée cette commission épiscopale pour les ressources naturelles? Trois questions déjà d'entrée.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, monsieur l'abbé, pour cette opportunité. Je salue les auditeurs de la Radio Maria qui nous suivent directement. Effectivement, la Commission épiscopale pour les ressources naturelles est la 12e commission de la Conférence épiscopale nationale du Congo qui organise 12 commissions. Et quand on dit la 12e, donc c'est la dernière pour le moment.
La cadette des commissions.
Oui, voilà. Alors, cette commission, pour connaître un peu de son histoire, nous devons retenir quatre dates. D'abord, juin 2000. 7. Les évêques ayant constaté que les ressources naturelles de notre pays, au lieu d'apporter du bonheur aux Congolais, ont voulu créer une commission ad hoc qui s'occuperait des problèmes qui se posent dans notre pays, la République démocratique du Congo, en matière de gestion des ressources naturelles. Mais après avoir analysé, en 2013, ils ont compris que vraiment, il faut prendre le taureau par les cornes. C'est comme ça qu'ils l'ont institué en commission et qui sera confirmé comme commission avec personnalité juridique en 2015 en ayant son statut. Et en 2017, ça aura une personnalité juridique. Vous comprenez que la commission a été conçue même avant l'encyclique, là où date aussi que... pour lesquels nous avons célébré l'année dernière 10 ans. Et ça veut dire que la Commission épiscopale pour les ressources naturelles se prépare à fêter l'année prochaine 20 ans d'existence.
Voilà, 20 ans
Alors,
d'existence.
Alors, comment cette commission est structurée? C'est comme toute commission dans notre Église. Donc, au niveau national, il y a les évêques, membres de la commission qui est présidée aujourd'hui par Mgr Liber Pongo, évêque de Bassankoussou, qui est le président de la commission, et avec les autres évêques membres, dont Mgr Désiré Lenke et Mgr Willy Ngumbi, respectivement l'évêque de Kilwa Kasenga et l'évêque de Goma. Alors, il y a aussi Mgr Fulgence, qui est comme membre d'honneur dans cette commission, étant un ancien dans la structure aussi, et l'archevêque de Lubumbashi. Alors, pour le moment, j'assume le secrétariat qui travaille avec une équipe réduite pour rendre les activités plus visibles et techniques, et assurer la présence et tout ça. Mais au niveau provincial, nous avons des points focaux des ressources naturelles dans chaque province ecclésiastique. Au niveau diocésain, il y a la commission diocésaine pour les ressources naturelles et au niveau paroissial, on doit avoir la commission aussi paroissiale pour les ressources naturelles. Mais cela dépend d'un diocèse à l'autre. Il y a des diocèses qui sont déjà en avance où ça fonctionne comme commission à tous les niveaux, mais il y a des diocèses qui, jusqu'à aujourd'hui, ont soit un bureau à l'intérieur, soit de la Caritas Développement, ou soit à l'intérieur de la commission justice et paix, où on trouve un service pour les ressources naturelles. Mais dans l'ensemble, dans chaque diocèse, le service est assuré, soit par un observatoire des ressources naturelles ou par un représentant point focal. Voilà ce que je peux dire pour cette question.
Voilà, avant que l'abbé Guy Massette puisse prendre les flambeaux de la suite de notre questionnaire, il y a une question par rapport à la tête du secrétariat que vous occupez. Ça fait combien d'années que vous êtes secrétaire de cette commission?
Ok, merci.
Ou combien de secrétaires ont défilé
Depuis la création de la structure, je dois dire que jusque-là, je suis deuxième secrétaire, mais le premier, c'est M. Henri Mouilla, qui a été à l'initiative dès le début 2007 jusqu'à ce qu'il m'a passé la responsabilité en 2023. Et je suis là depuis 2023 au mois de septembre.
Merci beaucoup. Monsieur l'abbé Guy Masseta.
Merci Maxime. Madame, votre commission est intitulée Commission épiscopale pour les ressources naturelles. Mais pourquoi on ne l'a pas intitulée, par exemple, Commission épiscopale pour l'environnement?
Merci, M. l'abbé, pour cette question. Ça, c'est un débat de tout le monde. Il y en a qui préfèrent que ça soit commission épiscopale pour l'environnement. Mais moi, je comprends que nos évêques ont vu grand. Quand vous dites commission épiscopale pour l'environnement, qu'allez-vous faire d'autres ressources? L'environnement aussi, c'est une ressource naturelle que Dieu nous a donnée. Et la commission est intitulée Commission épiscopale pour les ressources naturelles parce que ça nous ramène à la mission première que Dieu a donnée à l'homme depuis la création. Dieu a créé le ciel, a créé la terre, a créé ce qui est visible et invisible. Donc il y a le climat, il y a l'eau, il y a l'énergie. Quand Dieu a fini son œuvre, il a vu que c'est très bon, il a dit « créons l'homme » pour que l'homme continue l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est que l'homme doit continuer à protéger la création, à protéger ce que Dieu a fait. Et tout ce que Dieu a fait est naturel, même l'environnement est naturel. Alors, moi, je pense que les évêques ont très bien vu d'appeler la commission épiscopale pour les ressources naturelles, qui comprend et l'environnement et les ressources telles que minéraux, l'eau et consorts, que et j'y reviendrai un peu plus loin.
Voilà, ressources naturelles, la commission donc, dont nos pères évêques ont mis en place donc, pour les ressources naturelles. Nous en parlons, chers auditeurs et internautes, si vous venez de nous prendre en cours. Nous recevons donc mademoiselle Jeanne-Marie Abanda, qui est secrétaire de cette commission, CERN en sigle, Commission épiscopale pour les ressources naturelles. Alors, mademoiselle Jeanne-Marie, on va poursuivre donc cette série de questions avant peut-être les auditeurs qui vont entrer aussi en lice. Alors, votre commission, comme on l'a dit, est intitulée Commission épiscopale des ressources naturelles. Et de quelles ressources naturelles vous vous occupez précisément?
Merci beaucoup. C'est tout ce que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Dieu nous a donné la terre, il nous a donné les forêts, il nous a donné les eaux. Il nous a donné le climat, l'air. Il nous a tout donné. Il y a faune et flore. Tout ce qui vit, Dieu nous a donné. Mais il nous a confié la mission de bien gérer ça. Il y a l'énergie. Et quand les évêques nous parlent de la commission épiscopale pour les ressources naturelles, ils nous confient la mission de protéger, de bien gérer et de promouvoir tout ce qui est comme ressources naturel. Même si il arrive que l'homme ne voit pas bien, mais nous devons l'éclairer. Parce que avant même qu'on confie à l'homme, à l'Église, la mission de baptiser, Dieu nous a demandé de protéger les ressources. C'est la première mission. Alors, pour nous, nous avons, comme je venais de dire, la forêt, les minéraux, les énergies, les ressources agricoles, les ressources halieutiques. Donc, on peut avoir des poissons, la pêche, tout ça. Ce sont des ressources que Dieu nous a données. Nous avons l'air qu'il faut toujours garder pur pour la vie de l'homme. Nous avons le climat. Et ce sont toutes ces ressources-là où nous devons inviter l'homme à bien gérer. Nous n'allons pas les fabriquer autres. Ce sont ceux-là que nous devons bien gérer, bien utiliser et pérenniser pour des générations futures.
Alors, peut-être une petite question pour poursuivre cette partie interview. Est-ce que l'Église catholique a des ressources naturelles à protéger?
Oui, et puis pour continuer dans ce sens.
Oui.
Parce que les ressources, en fait, c'est la gestion du pouvoir.
Oui.
Alors, quand l'Église catholique dit, nous avons une commission pour les ressources naturelles, de quelles ressources elle parle? L'État lui-même va faire quoi?
Ok, merci beaucoup. Il y a deux volets dans vos deux interventions là. Vous avez compris que l'Église est là pour continuer la mission de Dieu. En réalité, c'est l'homme qui doit protéger ses ressources que je venais de citer. Et l'homme les protège par des politiques des pays qui doivent mettre un système pour gérer ces ressources-là et les mettre à la disposition de l'homme et aider l'homme aussi à pérenniser ses ressources. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que l'Église est là pour aider l'État. N'oublie pas que cette commission fait partie du dicastère pour le service de développement humain intégral. Donc, c'est un service social. Et le service social pour l'Église, c'est appuyer le peuple de Dieu à accomplir sa mission. Et ceux qui ont la mission dans le temporaire, c'est le gouvernement. C'est pour cela, dans notre commission, nous travaillons avec des ministères de tutelle. Je travaille avec le ministère d'Environnement, le ministère des Mines, le ministère d'Énergie et Hydrocarbures, le ministère d'Agriculture, le ministère d'Élevage et Pêche, donc qui ont ce mandat-là de mettre de bonnes politiques de gestion des ressources naturelles ici dans notre pays. Donc l'Église, comme il a fait pour les écoles, c'est l'éducation. Et l'Église a pris sa part d'amener les gens à la qualité des écoles. Aujourd'hui, l'Église aussi a pris conscience, et là je félicite vraiment nos évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo qui ont vu très loin, même avant l'encyclique Laudato Si, qu'il faut bien une pastorale pour la protection des ressources naturelles. Regardez ce qui se passe dans notre pays. Pourquoi il y a la guerre? Mais c'est une guerre des ressources naturelles parce que nous-mêmes, nous ne savons pas bien gérer nos ressources. Nous ne savons pas les mettre à la disposition des autres et les gens viennent nous ravir des forces. Et c'est biblique aussi. Regardez notre ville de Kinshasa. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a des chrétiens à Kinshasa quand vous voyez tout un tas de déchets? Alors, il faut une pastorale pour aider les gens à comprendre qu'on doit faire une gestion durable des déchets. Et c'est cette pastorale-là, et c'est la mission de cette commission. Donc, accompagner le peuple de Dieu à prendre en main sa mission, c'est la mission de l'Église. Et à travers cette commission, c'est accompagner le peuple de Dieu, tant ceux qui sont dans des politiques que ceux dans le quotidien, à bien gérer ce que Dieu a mis à notre disposition.
Allez, on vous entend parler, c'est comme si on a déjà abordé la notion de la mission dévolue à votre commission. Est-ce qu'il y a encore un autre aspect que vous voulez ajouter par rapport à la mission qui est dévolue à votre commission, la commission pour les ressources naturelles, la commission épiscopale, bien entendu?
Oui, je peux ajouter encore trois choses. D'abord, on ne peut pas parler de la mission sans parler de la vision. Quelle est la vision de cette commission? quand les évêques ont mis sur pied cette commission, ils veulent aider les Congolais à contribuer, à bénéficier, à profiter et avoir un bien-être à travers tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Mais c'est le journaliste, il n'y a aucun pays au monde qui est si riche en ressources naturelles que la République démocratique du Congo. Mais le paradoxe, c'est de voir son peuple vivre dans la misère et dans la pauvreté. Et la commission est là pour que nous puissions réfléchir ensemble comment jouir de nos ressources naturelles. Comment créer même des riches à partir de nos ressources naturelles et s'en sortir de cette pauvreté. Ça, c'est un premier aspect qui est la vision même de cette commission. Mais comment y arriver? La mission est simple. Numéro un, c'est éducation environnementale que le pape François a appelé éducation écologique. Numéro deux, écouter les cris des victimes des ressources naturelles. Aujourd'hui, notre peuple est victime d'exploitation des minéraux. Notre peuple est victime de mauvaise utilisation d'eau. On ne prive jamais de l'eau de passage. En conséquence, nous vivons des inondations. Le peuple est victime de mauvaise utilisation de l'air. Nous brûlons n'importe quoi, n'importe où. Nous jetons des plastiques partout. Nous devons aider nos peuples à faire des déchets une source génératrice de revenus. Les déchets, c'est une matière première. Mais comment les déchets devaient plutôt nous noyer dans la misère au lieu d'être une matière première pour notre pays? Donc, nous devons aider nos peuples à gérer ces forêts. Aujourd'hui, nos forêts sont appelées patrimoine mondial. Mais dans ce patrimoine mondial, qu'est-ce qui va rester pour des communautés locales? C'est à nous, en tant qu'Église, de faire voir aux communautés que les lois nous autorisent à avoir des titres forestiers, des forêts que nos ancêtres nous ont léguées. Et une fois il y a ces titres-là, n'importe qui ne viendra pas nous délocaliser. Et c'est une grande mission. On a un grand travail à faire dans l'éducation de la communauté. Et si on écoute déjà leurs cris, nous allons les amener aussi à poser des actions de développement, soit pour l'économie écologique, avec l'agroforesterie, l'agriculture sans déforestation. On va aussi amener notre peuple à travailler pour qu'il y ait vraiment, j'aimerais dire, vraiment une bonne utilisation de ce que Dieu a mis à notre disposition. Surtout nous qui avons beaucoup de ressources, nous laissons tout à la responsabilité du Seigneur. Il vous donne la forêt. Depuis que vous avez cette forêt-là, vous n'améliorez rien. Mais Dieu ne nous a pas dit, allez rester là-bas dans les ressources. Il nous a dit, allez, continuez, soyez féconds, soumettez. Ce verbe-là de soumettre la création nous manque encore. Et cette commission est là pour ça. Alors, à côté de cette mission, nous devons aussi tenir compte de ceux qui n'en ont pas et partager nos expériences pour amener aussi d'autres à comprendre que les ressources que Dieu a mises chez nous peuvent aussi servir pour le monde. Au lieu que les gens viennent nous arracher ça, nous-mêmes, nous devons planifier une gestion avec les voisins, une gestion avec les autres. Mais tant que nous ne planifions pas, tous nos voisins deviennent presque nos ennemis par rapport à nos ressources. Ils ont besoin de ce que nous avons, mais nous n'avons pas de politique qu'il faut. Ils viennent nous ravir et c'est la guerre.
Oui, oui, mademoiselle, merci de tous ces éclaircissements. Tout à l'heure, là, vous avez fait référence aux chrétiens qui sont nombreux et qui devraient protéger l'environnement ou les ressources. Alors, par rapport à cette éducation à l'environnement ou à la protection des ressources, que fait la commission, par exemple, avec nos paroisses? Est-ce qu'au niveau des paroisses, il y a cette politique-là d'éducation à la protection de l'environnement ou des ressources? Parce que vous avez fait référence à Kinshasa, après non seulement le cas de Kinshasa, quand vous voyez la saleté qu'il y a ici.
Oui, nous avons mis sur pied des programmes. On a des modules de formation sur l'éducation écologique, par exemple, devenir bâtisseur de notre maison commune. Ça, ce sont des modules déjà disponibles. Et il y a des paroisses qui les ont utilisés. Par exemple, la paroisse Saint-Quisito, les curés a appelé à la formation, on a formé les gens. Ce qui était étonnant, c'est qu'après la formation, les chrétiens se sont décidés de prendre leur environnement en main. Et je crois que c'est petit à petit. L'éducation de l'homme, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment des actions qu'on doit amener. Et il y a des programmes, selon des diocèses, qui sont bien structurés. Quand je prends l'archidiocèse de Lubumbashi, c'est l'archidiocèse qui marche vraiment avec l'écologie. Ils ont fait 2 années pastorales. Le thème, c'est que soignons notre écologie. Et le thème des 2 années de pastoral, c'était sur l'écologie. Et vous voyez que même des concessions, des communautés, ils ont déjà fait des limitations. Mais il y a des difficultés qui sont liées aussi à la politique de notre pays pour l'octroi des titres des forêts des communautés locales. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs programmes. Il y a des diocèses qui ont mis sur pied des centres de formation écologique. On a le diocèse de Lolo qui a déjà un centre de formation. On a aussi des congrégations religieuses qui ont mis sur pied des programmes écologiques, comme chez les pères comboniens. On a aussi chez les pères jésuites qui accompagnent vraiment des jeunes dans cette mentalité-là. Donc nous avons déjà des actions. On a aussi des modules sur formation des formateurs en écologie intégrale. Et là, nous avons déjà formé des formateurs nationaux. On est maintenant en train de former des formateurs provinciaux. Et au moment opportun, selon des demandes des diocèses, on va former des formateurs diocésains. Mais il y a aussi des observatoires des ressources naturelles qui ont déjà été installés depuis longtemps, qui font leur travail, qui remontent aussi des rapports sur la façon dont nos ressources sont gérées sur le terrain. Et quelles sont des ressources selon les lieux qui posent problème, qui rendent la vie difficile à nos citoyens.
Alors, mademoiselle Jeanne-Marie Abanda, une question par rapport à cela. Alors, comment pérenniser ces programmes que vous mettez en place? Nous avons vu, par exemple, il y a quelques années ou quelques mois, Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate, qui est évêque auxiliaire de Kisangani, en train de faire les salons. Il a donné le ton, mais dans la suite, dans la durée, c'est comme si les chrétiens n'ont pas suivi cet élan-là. Et comment pérenniser ces élans? Vous avez évoqué les cas de Lubumbashi, où la ville est écologique, parce que là, c'est le président de la CENCO qui s'y trouve. Maintenant, comment pérenniser, que ça puisse devenir une habitude, notre quotidien, cette gestion de notre environnement?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La commission a mis sur pied des programmes. Nous n'avons pas dit de projet de sensibilisation, qu'on a mis des programmes. D'abord, le programme d'éducation environnementale, c'est un programme permanent. Et pour pérenniser ça, il y a aussi des actions permanentes à mettre sur pied. Je prends par exemple pour la gestion durable des déchets. Après avoir formé ce que nous appelons des bâtisseurs de notre maison commune en gestion durable des projets, des déchets par exemple, ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est mettre d'abord des sites de traitement des déchets. Et un site de traitement des déchets, tant que l'homme vit, on aura toujours des déchets. Et un site de traitement, c'est comme une école qu'on met sur place. Il y a des normes, il y a des principes et il y a aussi des autorisations à avoir. Et une fois ce site-là, on sait déjà canaliser les déchets, on sait les trier, on sait les transformer et on sait les gérer. Et le grand travail que nous avons à faire à travers nos diocèses, nos congrégations, pour entrer, et nos chrétiens, parce qu'on a aussi des chrétiens vraiment de bonne volonté qui prennent des initiatives, qui vont dans ce sens-là. Nous sommes aussi avec eux, on les accompagne aussi. Mais c'est un grand travail à faire parce que les moyens ne suivaient pas. Quand l'Église a vu qu'il fallait bien former un homme congolais dans une école, pour construire des écoles, l'Église a eu des appuis. Et en premier lieu, l'appui du gouvernement. Le gouvernement de l'époque, c'était le gouvernement belge, on a dû construire des écoles. Aujourd'hui aussi, dans ce secteur, nous avons besoin des appuis, d'abord de notre gouvernement, pour qu'ensemble, on arrive à construire des centres de traitement de déchets, par exemple, qu'on arrive aussi à professionnaliser, par exemple, dans le secteur minier, des artisanaux congolais qui deviennent vraiment des gens qui savent bien gérer des minerais pour des artisanaux dans le secteur minier. Pour les artisanaux dans le secteur forestier, on doit aussi les professionnaliser. Et c'est un travail que l'Église ne fera pas seule. Il doit le faire avec l'État congolais. C'est pour cela que nous sommes tout le temps en contact avec les ministères des tutelles.
Oui, mademoiselle, je voulais revenir sur ce que vous dites par rapport à la gestion des déchets. Est-ce que l'Église, donc par votre commission, ne peut pas se présenter à cette société qui gère les déchets, par exemple à Kinshasa? Il crée ce centre de gestion des déchets et puis il peut s'en occuper. Ça, pour cela, c'est faisable ou pas?
Ok. Ça, c'est, vous m'invitez à expliquer un aspect. Dans chaque domaine, il y a des lois. En matière de l'assainissement, parce que quand nous parlons de déchets, nous sommes maintenant dans l'assainissement. En matière de l'assainissement, il y a aussi des lois. Jusqu'aujourd'hui, l'assainissement reste l'ouvrage du gouvernement. Mais quand nous les approchons, pour les appuyer, ils sont disponibles. Mais la question qui reste, c'est que pour notre pays, le Congo, cette politique d'assainissement n'a pas encore de base sûre pour que nous puissions y compter. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous sommes en train de faire, c'est quoi? C'est de créer les activités. Et on a des activités dans ce secteur d'assainissement, comme j'ai dit, de création de sites de traitement des déchets, avoir une unité de triage, avoir des équipes à former pour le transport des déchets, parce que les déchets ne se transportent pas n'importe comment, et aussi une politique de gestion des pollueurs. On a des pollueurs comme ménage, on a aussi des pollueurs comme des industriels. Et ces pollueurs-là, comme ils polluent, ils ont aussi une contribution à donner. Et c'est là où il y a le grand problème que l'État doit définir si les privés se lancent dans ce secteur. Est-ce que les privés ont la liberté de prendre des contributions des pollueurs comme ils veulent? Et là, nous avons toute une commission, par exemple ici, avec l'hôtel de ville de Kinshasa, où nous travaillons pour arriver à faire ce qu'on appelle des coordinations pour la gestion des déchets. Mais je vous dis que c'est un secteur très coûteux. Si jusqu'aujourd'hui, par exemple, au niveau de la conférence épiscopale, on n'a pas encore mis sur pied les sites, malgré les lieux connus, c'est parce qu'on n'a pas des moyens qu'il faut pour mettre ces sites-là. Les chrétiens, pour évacuer les déchets, ce n'est pas un problème. Mais le grand problème, c'est surtout transporter ces déchets vers le lieu de traitement, de triage et de transformation.
Voilà. Merci beaucoup, mademoiselle Jeanne-Marie Abanda. Je rappelle que vous êtes secrétaire de la CERN, la Commission épiscopale pour les ressources naturelles. Avec vous, donc, nous parlons de la CERN, sa mission et réalisation. Nous allons observer une pause, monsieur l'abbé Guy Massietta. Je rappelle, vous aussi, vous êtes secrétaire donc, d'une commission épiscopale des communications sociales, oui, bien oui. Que vous êtes lié en journaliste pour poser une question. Oui. Merci, donc. Nous allons nous rabattre donc, auprès d'Eroc Mwamba. Il va nous proposer un chant, nous allons respirer et nous allons aussi associer les auditeurs parce qu'ils ont des questions. Quand on parle d'assainissement, on parle des déchets, on parle des ressources naturelles, on parle de beaucoup de choses, des minéraux. Je crois que ça ne laisse aucun auditeur indifférent. Vos questions au 081 99 66 098. Notre numéro est à votre portée déjà, 081 99 66 098.
Sont belles, que tes œuvres sont grandes.
Voilà, les œuvres du Seigneur sont belles et parmi ces œuvres, ce sont nos ressources naturelles et nos pères évêques donc y ont consacré toute une commission et c'est la commission épiscopale pour les ressources naturelles. Et voilà donc qui nous a poussé aujourd'hui à recevoir mademoiselle Jeanne-Marie Abanda qui est mademoiselle consacrée, secrétaire donc de la dite commission. Nous sommes avec l'abbé Gumassietta et nous attendons donc vos préoccupations. Passion, vos questions, parce que nous avons parlé de la CERN, qui est la Commission épiscopale pour les ressources naturelles, sa mission et pourquoi pas ses réalisations. 081-99-66-098. Cette émission vous permet de comprendre et de connaître davantage la Conférence épiscopale nationale du Congo. Au travers ces structures, notamment ces commissions, et la commission CERN est la cadette des commissions, comme l'a dit mademoiselle Jeanne Abanda, créée seulement en 2007, au mois de juin, je crois que j'ai noté, avec une personnalité juridique vers les années 2017. C'est une jeune commission. Et bientôt, donc, l'année prochaine, ça sera 20 ans que nous allons fêter donc, pour cette commission épiscopale pour les ressources naturelles. 081-99-66-098. Nous attendons donc vos questions après cette partie interview. Monsieur Labbé, on va continuer aussi parce qu'il y a des questions qui peuvent sortir donc de tout ce que mademoiselle Jeanne-Marie Abanda nous a proposé comme contenu. Alors, parce que vous avez dit qu'il y a des passerelles entre la CERN et les ministères au niveau de l'État qui gère qui les mines, qui les hydrauliques ou que sais-je encore. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vous muer un ministère pour créer des choses ou comment vous faites, comment vous vivez, comment est votre collaboration avec ces ministères qui gèrent au quotidien ces ressources naturelles?
Merci, monsieur le journaliste. L'État ne va jamais avoir de confusion avec l'Église. Comme je le disais au début, l'Église est là pour appuyer l'État. Et d'autres pays, c'est vraiment un pays où on a de bonnes lois. Mais parfois, nos lois ne sont pas connues. Et la première chose que nous faisons, c'est de vulgariser des lois auprès de notre population. Et nous recourons de temps en temps aux experts des ministères pour venir vulgariser les lois. Par exemple, nous avons fait la formation sur des formateurs nationaux en écologie intégrale. Nous avons invité le ministère d'Environnement pour nous parler quand aujourd'hui on parle de crédit carbone, on parle de paiement des services environnementaux, on parle de couloirs verts, on parle de concessions de forêts des communautés locales. Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous-mêmes, nous lisons seulement des lois, peut-être les gens ne vont pas comprendre. Mais nous invitons les experts pour former le peuple de Dieu que nous rassemblons. Aujourd'hui, on a le code minier. Le code minier mérite d'être connu par les chrétiens. Le code minier mérite d'être connu par nos chrétiens parce qu'il y a beaucoup des points importants que nous ignorons et nous subissons des conséquences de notre ignorance parce qu'on ne sait pas anticiper. Et quand aujourd'hui je dois donner une formation à une équipe, par exemple dans des provinces où le problème des minerais se pose davantage, je vais amener un expert du secteur minier qui est un agent de l'État pour parler lui-même, par exemple, du code minier. On a le code forestier, la même chose. Vous m'avez posé la question pourquoi il n'y a pas eu une suite à l'action de Monseigneur Léonard Ndjad. Je dois dire qu'il y a eu une suite. Parce que aujourd'hui, quand nous prenons la province ecclésiastique de Kisangani, en matière d'environnement, il y a déjà des programmes bien tracés et ça aide de plus en plus des chrétiens à se prendre en charge. Vous n'allez pas trouver les mêmes quantités de déchets à Kisangani comme ici à Kinshasa. Et les gens ont eu l'éveil après avoir vu le vœu qui a posé l'acte. Mais bien sûr, nous devons structurer. Mais pour structurer même ce secteur de déchets, nous faisons appel au service ad hoc de l'État pour venir nous présenter des politiques en matière de gestion des déchets, de l'assainissement. Et voilà un peu comment nous travaillons avec tous ces ministères. Je prends le ministère de l'énergie. Aujourd'hui, on a problème de l'énergie. Comment une grande ville, un grand pays comme le Congo, nous pouvons être dans l'obscurité dans certains coins, alors que le Seigneur nous a donné le soleil, il nous a donné des cours d'eau, il nous a donné beaucoup de choses, même avec des déchets, on peut faire des biomasses pour avoir de l'énergie. Alors, avec des services comme ACER, vous allez trouver que nos diocèses sont déjà engagés à mettre des centrales photovoltaïque, par exemple, pour l'énergie solaire. On a aussi des centrales hydroélectriques. Donc, notre Église fait ce travail, mais avec l'État. Parce que c'est son domaine. Même si aujourd'hui, par exemple, le secteur de l'énergie est libéralisé, mais nous avons des autorisations à avoir pour mettre sur pied tout ça. Voilà un peu ce que je peux vous dire dans ce domaine-là.
Voilà, on va peut-être voir ces coups de fil, cet appel. Allô, bonjour.
Bonjour, Maxime, c'est Papa Jean-Marie, Saint-Quisito.
Oui, Papa Jean-Marie, on vous écoute.
Oui, je salue Mademoiselle Jeanne-Marie, que j'ai bien suivi par rapport à ses explications fournies concernant la commission épiscopale de la gestion des ressources humaines, des ressources naturelles plutôt. Quelque part, elle a dit qu'elle travaille avec le gouvernement, bon, notamment l'hôtel des villes par rapport à l'assainissement, puisque c'est l'hôtel des villes qui est chargé de l'assainissement de la ville. Je voudrais lui demander, je la félicite d'abord de cette explication claire, mais je voulais lui poser la question de savoir si, depuis qu'on a lancé les slogans de Kinshasa et Zobunga, comme elle travaille, elle soutient les gouvernements, elle le suit, elle constate que Kinshasa commence à s'améliorer. Ou c'est un slogan seulement dont on ne voit pas la faisabilité sur le terrain par rapport à l'environnement de Kinshasa. Est-ce que mademoiselle constate aussi que ce slogan-là est pratiqué? Il y a le changement dans le sens de l'assainissement de la ville ou bien c'est seulement un slogan qui reste vain? Voilà un peu qu'elle me précise aussi si elle a le même constat que moi par rapport à l'assainissement de la ville, puisqu'elle soutient le gouvernement à travers l'assainissement du gouvernorat. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, papa, depuis Saint-Quisito, ou peut-être autrement dit, et comment la CERN a récupéré ce slogan-là, Kine Kobunga, et il en a fait aussi son cheval de bataille dans la mesure où il travaille en collaboration avec l'hôtel de ville. Voilà.
Ok, merci beaucoup pour la question. Monsieur a raison de poser la question si nous travaillons, nous appuyons le projet de Kine Zobonga. Ça, c'est un projet du gouvernement, nous ne sommes pas dedans. Mais une chose est vraie que dans les actions d'assainissement, nous recourons à leur service. Comme il est à Saint-Quisito, il aurait pu confirmer que quand les chrétiens de Saint-Quisito on commençait à ramasser les déchets. À un certain moment, on était débordé du travail que les chrétiens ont fait en 3 heures du temps. Mais ce qui était aussi ma grande surprise, c'est de voir que quand ministre provincial de Kinshasa a vu le travail qu'on a fait, il nous a appuyés pendant 6 heures seulement avec les véhicules, les tractopelles pour évacuer. Et moi-même, je n'en revenais pas que Kinshasa a autant de véhicules de qualité, a autant de tractopelles pour évacuer. Alors, pour dire que on peut toujours espérer que tout peut changer, mais il est question de gestion. C'est à quel niveau? À quel niveau est géré le projet Kin Ezobonga? Je n'en sais rien. Je ne suis ni de près associé. Mais je peux dire que ce que j'ai vu à côté de vous ici, au niveau de la première rue, comme qualité de véhicule dont dispose le gouvernement provincial de Kinshasa, je ne sais pas pourquoi ça bloque, pourquoi ça ne marche pas. C'est pour cela que j'ai parlé. Notre rôle, c'est de faire l'éducation environnementale. Ce secteur n'est pas un secteur de cerveau, c'est un secteur de cœur. De savoir que j'ai fait un travail d'environnement, j'ai fait un travail d'assainissement, d'abord parce que Dieu me charge. Même dans ma propre maison, si je mets l'ordre, c'est pour appeler la présence de Dieu. Et le faire pour la formalité qu'on nous voit, parce qu'on doit le faire, on ne va pas y arriver. Nous devons y arriver si on travaille comme mission. Si on travaille vraiment comme un souci. Et quand nous disons que le rôle de l'Église, c'est d'appuyer l'État, c'est d'accompagner cette éducation-là. Qu'on ne puisse pas le faire parce que je travaille dans tel service. Mais moi-même, je suis le premier à jeter des bouteilles en plastique dans la rue. Ça ne va pas. L'homme quinois, vous me permettez de dire avec précision, a un problème d'abord de conversion écologique. À tous les niveaux. À tous les niveaux, nous devons faire vraiment une conversion écologique, comprendre que si nous ne gérons pas bien, c'est un péché, c'est un mal. Et pour qu'on réussisse, nous devons bien gérer. Donc, je réponds à notre auditeur. C'est sûr que je ne connais pas comment fonctionne ce projet. Lui comme moi, nous voyons des véhicules, nous voyons mais je sais qu'ils sont très bien équipés parce que moi-même, j'ai vu comment ils nous ont appuyés avec seulement 2 véhicules et les tractopelles. Et nous avons pu évacuer 214 tonnes en 4 heures du temps. Donc, voilà. On est capable.
Voilà, 081-99-66-098. Monsieur Labbé, peut-être vous avez une question.
Oui, mademoiselle Apala est revenue plusieurs fois sur l'expression « forêt des communautés locales ». Quand vous parlez des forêts, des communautés locales, vous faites référence à quoi?
Oui, merci beaucoup, M. Labbé. Forêts des communautés locales, ce sont des espaces forestiers que nous avons acquis par nos ancêtres. Et ces espaces-là méritent d'être identifiés, soit par des clans, soit par des entités comme telles. Et ces forêts-là, il y a des titres qu'on donne. On donne les titres forestiers. Et les titres forestiers font que la communauté qui occupe cet espace-là puisse en avoir comme son espace à lui, que l'État ne peut pas aliéner comme ça. Et nous appelons ça forêt des communautés locales. Et selon les lois du pays, c'est un espace qui ne dépasse pas 50 000 hectares qui est attribué à une communauté X et qui a un titre. Et l'État ne peut pas aliéner cet espace-là. Donc, on a une loi sur ça, la loi sur les forêts des communautés locales. Et aujourd'hui, c'est vraiment urgent que nous puissions accompagner notre population à accéder à ce titre-là pour qu'on ne se retrouve pas un jour, c'est tel exploitant qui a acheté une telle concession et on doit délocaliser tel peuple ou tel clan ou telle population. Et c'est important vraiment de vulgariser la loi sur les forêts des communautés locales et des peuples autochtones.
Voilà, nous arrivons à la fin donc de cette émission. On va accorder donc la parole à mademoiselle Jeanne-Marie Abanda. Peut-être un mot en lingala pour permettre aux uns aux autres. Peut-être prochainement vous les ferez aussi en swahili, en kikongo. Mais aujourd'hui on commence peut-être par le lingala. Comment résumer Turuk aussi manini.
Merci Ndeko journaliste Leloto Lobby pour la commission. Il y a ressources naturelles. Ma terme un peu naturel, les amakas, bon, directement, je ne me suis pas préparée en lingala comme ça. Mais, ezali, commission Oyo, ezali, kota la kita ya ekolo na biso, kita ya nzamba, pesaki biso. Ezala zamba, ezala mai, ezala mopepe, ezala lotiliki. Ezala oyo nyoso nzamba pesi biso ba climat tout ça ezali nkita oyo nzamba sengi na biso to batela yango to kolisa yango pe to kanisa ba generation iye ezali koya sima na biso pe pona yango ba papa episcopo ndenge ba mona kike kita na biso ya Congo esike botela biso bomengo ekomi ko botela biso ba passe bitumba Minyokoli yango wana batelemisi komisio wana po esunga population bakoka kobatela biloko biye nzamba pesi na biso. Ce que je voulais aussi ajouter, nous sommes aujourd'hui le 11 février.
C'est la journée mondiale des malades.
Voilà, la journée des malades, mais c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes.
Voilà.
Et pour moi, le fait de m'inviter ici en cette fête de Notre-Dame de Lourdes, je comprends qu'on veut valoriser encore deux ressources.
Oui.
Il y a de l'eau et la forêt.
Oui.
Parce que Bernadette était partie chercher du bois dans la forêt de Massabielle autour d'une source qui est devenue aujourd'hui l'eau qui apporte la vie aux malades, aux handicapés, à tout le monde. Et moi, je crois que les ressources naturelles, c'est une base d'évangélisation, c'est une base de conversion et c'est un chemin qui nous relie à Dieu.
Merci beaucoup. Il faut vraiment de la pastorale écologique, n'est-ce pas,
monsieur? Oui.
Auprès des peuples chrétiens, je crois que la commission épiscopale pour les ressources naturelles, vous y êtes donc dans ce sens-là.
Oui, oui.
Un mot peut-être pour finir, monsieur l'abbé.
Non, nous remercions mademoiselle Jeanne-Marie Abanda. Je pense que vous avez senti l'intérêt que nos auditeurs ont apporté à cette émission. Bon, il y a un souci là, de langue. Bon, on verra comment résoudre ce problème avec les pères et Maxime aussi, parce que c'est vous qui êtes l'éditeur du programme.
Oui, l'assistant éditorial.
OK.
Voilà, donc merci à vous, hein, chers auditeurs. Merci à mademoiselle Jeanne-Marie Abanda, qui est secrétaire donc, de la CERN, Commission épiscopale pour les ressources naturelles. Merci d'être passé. Je crois qu'on aura encore besoin de vous parce qu'il faut aller en profondeur.
Oui.
Aujourd'hui, on a parlé de la mission et réalisation. Et c'était pour nous une façon donc, de permettre aux auditeurs catholiques et aux personnes de bonne volonté de comprendre la mission de votre commission et de s'engager dans la protection des ressources naturelles. Votre prochain passage ici à la Radio Maria va permettre à ce que nous puissions aller dans les détails. Vous voyez les problèmes d'insalubrité, c'est le domaine qui est le vôtre. Comment donc aller vraiment palper, tâter les réalités sur terrain? Comment évacuer nos déchets? Comment rendre nos endroits salubres? Je crois que votre apport sera d'une importance capitale, n'est-ce pas, mademoiselle?
Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. Je reste ouverte tant pour l'émission complètement au Lingala, dans les heures de Lingala, et aussi prochainement, ça vaut la peine parce que mon peuple est péri faute de connaissances. Et c'est à nous de faire connaître cette commission qui est encore jeune et qui n'est pas assez connue même au sein de notre propre église.
Merci beaucoup. Merci à l'abbé Guy Massieta qui est secrétaire donc de la CECOS, la Commission épiscopale de communication sociale, qui est concepteur de l'émission avec qui nous avons co-présenté cette émission. Derok Mwamba était de l'autre côté de la baie vitrée. Nous saluons aussi les étudiants de l'UNIKIN qui sont en stage, hein, qui ont donc observé et capitalisé ces moments donc pour faire aussi écho des ressources naturelles. On vous retrouve le mercredi prochain avec un autre invité.
Oui, le mercredi prochain. Donc, je pense qu'on va en parler. Hein.
D'une autre commission.
Ah, ouais.
Voilà, parce qu'il y en a 12. Peut-être qu'on aura une autre commission qui sera donc ici au devant de la scène. Restez à l'écoute de la radio de la Vierge Marie et à très vite. Au revoir.
La voix de la SENCO.
La voix de la SENCO. Une émission de la Conférence épiscopale nationale du Congo sur les ondes mariales.
La voix de la SENCO.
La voix de la SENCO.
Une émission
de la Conférence épiscopale nationale du Congo sur les ondes mariales.